enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia, aujourd'hui nous allons finir notre enseignement sur la porte de Lévi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et l'homme qui n'était pas capable de voler, comme les oiseaux, alléluia, aujourd'hui se retrouve capable de créer des avions qui vont même plus vite que tous les oiseaux qui existent. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que ça signifie l'image de Dieu? Ça veut dire que Dieu a déposé en l'homme aussi la capacité de créer. Amen. L'homme avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu est l'être qui crée. Et dans tout l'univers, les seuls êtres capables de créer aussi comme Dieu, ce sont les hommes. Amen. Dieu a déposé en nous une sagesse et une intelligence extraordinaire pour résoudre les problèmes. Alléluia. Un homme, naturellement, n'est pas né pour accepter une situation de fait. Lorsqu'il voit un problème, il essaie de le résoudre. Je dis souvent, j'ai l'habitude de dire que les animaux, eux, n'ont pas cette appréciation des choses. Amen. Les singes qui sont dans nos forêts, depuis des siècles, sont toujours singes. C'est-à-dire, au lieu de... ils auraient pu réfléchir qu'ils devaient faire peut-être une perche, avec un crochet pour couper les fruits dans l'arbre, dans les arbres. Mais depuis qu'ils sont singes, vous comprenez, ils ont toujours grimpé. Jamais ils ne se sont assis pour améliorer leurs conditions. Les chiens que vous avez chez vous à la maison sont très souvent maltraités. Mais jamais vous n'avez vu les chiens s'associer pour faire un syndicat, pour venir se plaindre de la façon, de la maltraitance que les hommes leur donnent. Mais un homme vit dans une situation, il voit qu'elle ne va pas, et puis naturellement, il essaie de la changer, il essaie de la transformer. Tu es né pour changer les choses. Amen. Tu n'es pas né pour subir la vie. Tu n'es pas un animal. Ce sont les animaux qui subissent la vie. Ils subissent leur environnement. Amen. Mais les hommes ne subissent pas. Les hommes sont dans des problèmes et ils transforment les choses. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est vrai, peut-être aujourd'hui il fait un peu chaud. Mais les hommes ont vu la chaleur et les hommes ont créé la climatisation. Vous comprenez? Avant, pour avoir froid, il fallait partir jusqu'au pôle Nord ou dans les pays tempérés. Mais maintenant, on est capable d'amener le froid même là où il fait chaud. Et on est capable d'amener le chaud même là. Vous voyez, c'était pas possible auparavant, mais l'homme est capable de le faire parce que Dieu a déposé en lui quelque chose d'extraordinaire. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est une mentalité diabolique que de croire que ta vie ne va aboutir à rien. Tu es né pour changer la situation. Et je dis, si nous sommes là, si nous parlons de la parole de Dieu, notre message ne doit pas être seulement théorique. Nous devons être capables, par la parole que nous recevons, par ce que Dieu fait en nous, nous devons être capables de changer notre environnement. Je ne dis pas, vous savez, très souvent les gens font des proclamations prophétiques, tu vas réussir, tu vas avoir du succès. Mais même la façon dont les gens font la proclamation, ce n'est pas juste. Ce n'est pas fondé sur Dieu. C'est fondé sur la gloire de l'homme. C'est fondé sur les intérêts personnels. Ah, je serai à la tête et non à la queue. Mais à la tête de quoi? Pourquoi à la tête? Dieu prend-il du plaisir à ce qu'une personne soit assise pour dominer les gens, pour dire qu'elle a la meilleure voiture? Et quelquefois même j'entends des personnes, je dis non, c'est pas ce que Dieu veut. Il dit oui, vous voyez les gens aujourd'hui, ils ont des jets privés. Moi aussi demain, j'aurai mon jet privé. Mais pourquoi? Tu veux un jet privé pour faire quoi? Alléluia. Dieu n'est pas un plaisantin. Amen. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir un jet privé, c'est une très bonne chose. Que l'Éternel te bénisse, il t'en donne. Mais je dis, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Pas pour le but de la fanfaronnade, pas pour le but de se faire voir. Et parce que le monde nous a corrompus. La Bible dit que voici ce qu'il y a dans le monde. L'orgueil de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Amen. L'orgueil de la vie. Il dit, voici l'esprit du monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quelquefois, nous venons à l'église avec la mentalité du monde. Et nous voulons devenir riches comme les hommes du monde veulent devenir riches. Nous voulons être prospères de la même façon que les païens recherchent aussi la prospérité. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. La mentalité avec laquelle ils recherchent ces biens-là est une mentalité qui est inspirée par un démon qui s'appelle Mammon. La réalité, c'est que vous... L'homme en général est choisi par Dieu pour apporter des solutions. Alléluia, pour aider les gens. Jésus dit ceci. Il dit, celui qui veut être le chef, qu'il soit le serviteur de tous. Comprenez bien ceci. Quand Dieu dit à l'homme, je vais te donner, tu seras la tête et non la queue. Dieu est en train de dire que je ferai en sorte que toi dans ta vie, tu serves beaucoup de gens. C'est-à-dire ta vie ait été utile à tous. Pour Dieu, c'est celui qui est le chef. Il dit, celui qui est le plus grand... C'est celui dont la vie est utile. Quand il dit servir, ça ne veut pas dire esclave des autres. Non. Nous ne sommes esclaves que du Seigneur Jésus. La Bible que Christ nous appelle à la liberté, ça ne veut pas dire esclave des gens. Ça veut dire simplement que votre vie est utile pour eux. Alléluia. Que vous les enrichissez. Amen. Excusez-moi, mais j'aime le dire. Actuellement, la sauce de scie, là, ils nous commandent, non? Ils nous gèrent. Mais pourtant, ils nous servent tous. S'il n'y a pas la sauce de scie, on aura des problèmes, non? Quand ils coupent, tout le monde est fâché. Vous savez pourquoi ils sont à la tête? Ils sont simplement à la tête parce qu'ils servent tout le monde. Parce qu'ils te donnent un service. il t'évite de te déplacer, d'aller au marigot le plus proche pour prendre de l'eau. Et parce qu'ils te servent, toi tu les rémunères. Et puis ils sont toujours à la tête. Vous comprenez? La réalité c'est que quand vous êtes la tête, ce n'est pas celui qui s'impose de manière tyrannique. C'est celui qui aide les gens. C'est vrai, ils le font pour un profit charnel. Mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut que vous compreniez, dans le message que je suis en train de vous donner, que lorsque Dieu vous fait sortir de la disette, car nous sommes en train de parler de la porte de Lévi, la porte qui dit ta corbeille et ta huche seront bénies, la porte qui dit que tu ne manqueras de rien. Lorsque Dieu te fait sortir du manque, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'être sorti. Dieu te fait sortir du manque parce qu'il veut que toi, tu puisses nourrir beaucoup d'autres. Dieu te fait sortir d'une situation compliquée parce qu'il veut que toi, tu puisses aider beaucoup de gens. Alléluia. Tu peux traverser des moments difficiles, c'est pourquoi je t'ai chanté tout à l'heure de persévérer. Mais Dieu veut que ta vie soit une bénédiction pour plusieurs. Dis amen avec moi. Alléluia. Et c'est donc une mentalité de la médiocrité, de pauvreté, que d'imaginer que vous, lorsque vous allez sortir de votre situation difficile, vous allez bâtir seulement que pour vous-même. Tant que vous avez cette mentalité, Dieu ne peut pas vous bénir. Vous comprenez? Car je vous ai expliqué ceci pour rappeler ce dont nous sommes en train de parler dimanche dernier. J'ai dit que, en fait, l'enseignement que nous abordons, ce sont les 12 portes de la bénédiction. Nous sommes à la 3e porte, la porte de Lévi. Les 12 portes là vous donnent accès à ce qu'on appelle votre Canaan, ou bien encore votre Éden. Amen. Vous êtes dans votre petit paradis, même sur la terre déjà. Vous avez à manger, vous avez à boire. Et votre vie maintenant devient une source de bénédiction. Et j'ai dit ceci sur la base de Genèse, donc chapitre 2, que lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis 4 fleuves pour l'arroser. Voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui, en ce qui concerne la 3e porte. Dieu a mis 4 fleuves pour l'arroser. Et je vous ai bien fait noter ceci le dimanche dernier, que ce n'était pas des lacs, ce n'était pas des marigots. Et pour être d'accord avec une sœur qui me parlait la semaine dernière, hein, ce n'était pas aussi des flaques d'eau. Alléluia. Amen. Et je vous expliquais ceci, c'est que Dieu va vous faire sortir de la disette. Et Dieu va arroser votre vie. Mais Dieu arrose votre vie pour que votre vie soit reverdie toujours de 4 sources. Ça veut dire quoi? Que en vous, mon frère, en toi, ta destinée peut prendre 4 branches qui vont te bénir et qui béniront tes enfants sur 1000 générations. Tu comprends ça? Dieu peut travailler avec toi et sortir de ta vie 4 fleuves. Il dit, ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. C'est quoi un fleuve? Un fleuve, c'est de l'eau qui coule, qui quitte un point et qui va jusqu'à un autre point. Et sur le chemin, le fleuve est une bénédiction pour tous ceux qui se trouvent sur le chemin. Un lac, un marigot ne bénit que ce qui est aux alentours du point d'eau. Dieu ne veut pas créer des marigots dans ta vie. C'est pourquoi il y a des activités que vous menez qui sont des petits lacs ou bien des flaques d'eau. Ne croyez pas que c'est là-dessus que Dieu vous bénit. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Amen. Je ne suis pas contre le fait d'être fonctionnaire, de travailler à la fonction publique. C'est une bonne chose. Mais il faut que vous compreniez que ça, c'est une flaque d'eau. Amen. Ce n'est pas un fleuve. Parce que je ne vois pas combien vous gagnez. Amen. Et en quoi ce que vous avez là peut être une bénédiction pour vos enfants sur 1000 générations. Vous me suivez? Alléluia. Ce n'est pas un fleuve. Ça vous permet peut-être de manger, de payer votre loyer, de vous occuper de vos petites charges. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous ne pouvez pas établir une destinée là-dessus. Donc lorsque vous avez cette activité, je ne dis pas de démissionner, mais je dis, il faut vous préparer à ouvrir votre fleuve. Ça veut dire, vous avez le premier marigot, parce que de toute façon, un fleuve commence par un lac. Hein? Donc vous avez votre premier lac là, et maintenant vous commencez à ouvrir la brèche, parce que vous savez que vous n'êtes pas né pour essayer, pour vivre d'un lac. Et attendre votre retraite, avoir vos petits salaires, essayer à la limite de construire une petite maison au village, et vers la fin de vos jours, vous partez vous asseoir là-bas. Un vieux grand-père avec un gros ventre et puis la pipe. Ouais. Ah, la vie, vous savez, les enfants. Non. Dieu ne vous a pas créé pour que vous finissiez comme ça. Ok? Alléluia. Le fleuve, c'est quoi? C'est-à-dire, après vous, les gens se souviennent de ce que vous avez fait. Et les œuvres que vous avez produites leur sont utiles. C'est ce qu'on appelle un fleuve. Pendant votre vivant, plusieurs bénéficient de la faveur qui est dans votre vie. Le trésor que Dieu a déposé en vous est extraordinaire. Quand vous voyez un fruit, à l'intérieur se trouvent des pépins. Mais quand vous voyez un pépin, il y a quoi dans le pépin? Je prends un fruit, une orange. Dans le pépin là, qu'est-ce que vous avez? Dans le pépin, il y en a...
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Alléluia, aujourd'hui nous allons finir notre enseignement sur la porte de Lévi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et l'homme qui n'était pas capable de voler comme les oiseaux, alléluia, aujourd'hui se retrouve capable de créer des avions qui vont même plus vite que tous les oiseaux qui existent. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image. Et qu'est-ce que ça signifie l'image de Dieu? Ça veut dire que Dieu a déposé en l'homme aussi la capacité de créer. Amen. L'homme avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu est l'être qui crée. Et dans tout l'univers, les seuls êtres capables de créer aussi comme Dieu, ce sont les hommes. Amen. Dieu a déposé en nous une sagesse et une intelligence extraordinaire pour résoudre les problèmes. Alléluia. Un homme, naturellement, n'est pas né pour accepter une situation de fait. Lorsqu'il voit un problème, il essaie de le résoudre. Je dis souvent, j'ai l'habitude de dire que les animaux, eux, n'ont pas cette appréciation des choses. Amen. Les singes qui sont dans nos forêts, depuis des siècles, sont toujours singes. C'est-à-dire, au lieu de... ils auraient pu réfléchir qu'ils devaient faire peut-être une perche avec un crochet pour couper les fruits dans l'arbre, dans les arbres. Mais depuis qu'ils sont singes, vous comprenez, ils ont toujours grimpé. Jamais ils ne se sont assis pour améliorer leurs conditions. Les chiens que vous avez chez vous à la maison sont très souvent maltraités. Mais jamais vous n'avez vu les chiens s'associer pour faire un syndicat, pour venir se plaindre de la façon, de la maltraitance que les hommes leur donnent. Mais un homme vit dans une situation, il voit qu'elle ne va pas, et puis naturellement, il essaie de la changer, il essaie de la transformer. Tu es né pour changer les choses. Amen. Tu n'es pas né pour subir la vie. Tu n'es pas un animal. Ce sont les animaux qui subissent la vie. Ils subissent leur environnement. Amen. Mais les hommes ne subissent pas. Les hommes sont dans des problèmes et ils transforment les choses. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est vrai, peut-être aujourd'hui il fait un peu chaud. Mais les hommes ont vu la chaleur et les hommes ont créé la climatisation. Vous comprenez? Avant, pour avoir froid, il fallait partir jusqu'au pôle Nord ou dans les pays tempérés. Mais maintenant, on est capable d'amener le froid même là où il fait chaud. Et on est capable d'amener le chaud même là. Vous voyez, c'était pas possible auparavant, mais l'homme est capable de le faire parce que Dieu a déposé en lui quelque chose d'extraordinaire. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est une mentalité diabolique que de croire que ta vie ne va aboutir à rien. Tu es né pour changer la situation. Et je dis, si nous sommes là, si nous parlons de la parole de Dieu, notre message ne doit pas être seulement théorique. Nous devons être capables, par la parole que nous recevons, par ce que Dieu fait en nous, nous devons être capables de changer notre environnement. Je ne le dis pas, vous savez, très souvent les gens font des proclamations prophétiques, tu vas réussir, tu vas avoir du succès. Mais même la façon dont les gens font la proclamation, ce n'est pas juste. Ce n'est pas fondé sur Dieu. C'est fondé sur la gloire de l'homme. C'est fondé sur les intérêts personnels. Ah, je serai à la tête et non à la queue. Mais à la tête de quoi? Pourquoi à la tête? Dieu prend-il du plaisir à ce qu'une personne soit assise pour dominer les gens, pour dire qu'elle a la meilleure voiture? Et quelquefois même j'entends des personnes, je dis non, c'est pas ce que Dieu veut. Il dit oui, vous voyez les gens aujourd'hui, ils ont des jets privés. Moi aussi demain, j'aurai mon jet privé. Mais pourquoi? Tu veux un jet privé pour faire quoi? Alléluia. Dieu n'est pas un plaisantin. Amen. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir un jet privé, c'est une très bonne chose. Que l'Éternel te bénisse, il t'en donne. Mais je dis, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Pas pour le but de la fanfaronnade, pas pour le but de se faire voir. Et parce que le monde nous a corrompus. La Bible dit que voici ce qu'il y a dans le monde. L'orgueil de la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Amen. L'orgueil de la vie. Il dit, voici l'esprit du monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quelquefois, nous venons à l'église avec la mentalité du monde. Et nous voulons devenir riches comme les hommes du monde veulent devenir riches. Nous voulons être prospères de la même façon que les païens recherchent aussi la prospérité. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. La mentalité avec laquelle ils recherchent ces biens-là est une mentalité qui est inspirée par un démon qui s'appelle Mammon. La réalité, c'est que vous... L'homme en général est choisi par Dieu pour apporter des solutions. Alléluia, pour aider les gens. Jésus dit ceci. Il dit, celui qui veut être le chef, qu'il soit le serviteur de tous. Comprenez bien ceci. Quand Dieu dit à l'homme, je vais te donner, tu seras la tête et non la queue. Dieu est en train de dire que je ferai en sorte que toi dans ta vie, tu serves beaucoup de gens. C'est-à-dire ta vie ait été utile à tous. Pour Dieu, c'est celui qui est le chef. Il dit, celui qui est le plus grand... C'est celui dont la vie est utile. Quand il dit servir, ça ne veut pas dire esclave des autres. Non. Nous ne sommes esclaves que du Seigneur Jésus. La Bible dit que Christ nous appelle à la liberté. Ça ne veut pas dire esclave des gens. Ça veut dire simplement que votre vie est utile pour eux. Alléluia. Que vous les enrichissez. Amen. Excusez-moi, mais j'aime le dire. Actuellement, la source de ci, là, il nous commande, non? Il nous gère. Mais pourtant, ils nous servent tous. S'il n'y a pas la solution, on aura des problèmes, non? Quand il coupe l'eau, tout le monde est fâché. Vous savez pourquoi ils sont à la tête? Ils sont simplement à la tête parce qu'ils servent tout le monde. Parce qu'ils te donnent un service. Il t'évite de te déplacer, d'aller au marigot le plus proche pour prendre de l'eau. Et parce qu'ils te servent, toi tu les rémunères. Et puis ils sont toujours à la tête. Vous comprenez? La réalité c'est que quand vous êtes la tête, ce n'est pas celui qui s'impose de manière tyrannique. C'est celui qui aide les gens. C'est vrai, eux le font pour un profit charnel. Mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut que vous compreniez, dans le message que je suis en train de vous donner, que lorsque Dieu vous fait sortir de la disette, car nous sommes en train de parler de la porte de Lévi, la porte qui dit ta corbeille et ta huche seront bénies, la porte qui dit que tu ne manqueras de rien. Lorsque Dieu te fait sortir du manque, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'être sorti. Dieu te fait sortir du manque parce qu'il veut que toi, tu puisses nourrir beaucoup d'autres. Dieu te fait sortir d'une situation compliquée parce qu'il veut que toi, tu puisses aider beaucoup de gens. Alléluia. Tu peux traverser des moments difficiles, c'est pourquoi je t'ai chanté tout à l'heure de persévérer. Mais Dieu veut que ta vie soit une bénédiction pour plusieurs. Dis amen avec moi. Alléluia. Et c'est donc une mentalité de la médiocrité, de pauvreté, que d'imaginer que vous, lorsque vous allez sortir de votre situation difficile, vous allez bâtir seulement que pour vous-même. Tant que vous avez cette mentalité, Dieu ne peut pas vous bénir. Vous comprenez? Car je vous expliquais ceci pour rappeler ce dont nous sommes en train de parler dimanche dernier. J'ai dit que, en fait, l'enseignement que nous abordons, ce sont les 12 portes de la bénédiction. Nous sommes à la troisième porte, la porte de Lévi. Les 12 portes là vous donnent accès à ce qu'on appelle votre Canaan, ou bien encore votre Éden. Amen. Vous êtes dans votre petit paradis, même sur la terre déjà. Vous avez à manger, vous avez à boire. Et votre vie maintenant devient une source de bénédiction. Et j'ai dit ceci sur la base de Genèse, donc chapitre 2, que lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis 4 fleuves pour l'arroser. Voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui en ce qui concerne la troisième porte. Dieu a mis 4 fleuves pour l'arroser. Et je vous ai bien fait noter ceci le dimanche dernier, que ce n'était pas des lacs, ce n'était pas des marigots. Et pour être d'accord avec une soeur qui me parlait la semaine dernière, hein, ce n'était pas aussi des flaques d'eau. Alléluia. Amen. Et je vous explique ceci, c'est que Dieu va vous faire sortir de la disette. Et Dieu va arroser votre vie. Mais Dieu arrose votre vie pour que votre vie soit reverdie toujours de 4 sources. Ça veut dire quoi? Que en vous, mon frère, en toi, ta destinée peut prendre 4 branches qui vont te bénir et qui béniront tes enfants sur 1000 générations. Tu comprends ça? Dieu peut travailler avec toi et sortir de ta vie 4 fleuves. Il dit, ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. C'est quoi un fleuve? Un fleuve, c'est de l'eau qui coule, qui quitte un point et qui va jusqu'à un autre point. Et sur le chemin, le fleuve est une bénédiction pour tous ceux qui se trouvent sur le chemin. Un lac, un marigot ne bénit que ce qui est aux alentours du point d'eau. Dieu ne veut pas créer des marigots dans ta vie. C'est pourquoi il y a des activités que vous menez qui sont des petits lacs ou bien des flaques d'eau. Ne croyez pas que c'est là-dessus que Dieu vous bénit. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Amen. Je ne suis pas contre le fait d'être fonctionnaire, de travailler à la fonction publique. C'est une bonne chose. Mais il faut que vous compreniez que ça, c'est une flaque d'eau. Amen. Ce n'est pas un fleuve. Parce que je ne vois pas combien vous gagnez. Amen. Et en quoi ce que vous avez là peut être une bénédiction pour vos enfants sur 1000 générations. Vous me suivez? Alléluia. Ce n'est pas un fleuve. Ça vous permet peut-être de manger, de payer votre loyer, de vous occuper de vos petites charges. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous ne pouvez pas établir une destinée là-dessus. Donc lorsque vous avez cette activité, je ne dis pas de démissionner, mais je dis, il faut vous préparer à ouvrir votre fleuve. C'est-à-dire, vous avez le premier marigot, parce que de toute façon, un fleuve commence par un lac. Hein? Donc vous avez votre premier lac là, et maintenant vous commencez à ouvrir la brèche, parce que vous savez que vous n'êtes pas né pour rester, pour vivre d'un lac. Et attendre votre retraite, avoir vos petits salaires, essayer à la limite de construire une petite maison au village, et vers la fin de vos jours, vous partez vous asseoir là-bas. Un vieux grand-père avec un gros ventre et puis la pipe. Ouais. Ah, la vie, vous savez, les enfants. Non. Dieu ne vous a pas créé pour que vous finissiez comme ça. Ok? Alléluia. Le fleuve, c'est quoi? C'est-à-dire, après vous, les gens se souviennent de ce que vous avez fait. Et les œuvres que vous avez produites, leur sont utiles. C'est ce qu'on appelle un fleuve. Pendant votre vivant, plusieurs bénéficient de la faveur qui est dans votre vie. Le trésor que Dieu a déposé en vous est extraordinaire. Quand vous voyez un fruit, à l'intérieur se trouvent des pépins. Mais quand vous voyez un pépin, il y a quoi dans le pépin? Je prends un fruit, une orange. Dans le pépin là, qu'est-ce que vous avez? Dans le pépin, il y en a garanti votre avenir de demain. c'est pour que vous soyez bénis et que des gens soient bénis après vous. Ayez la mentalité de la bonne vision. Alléluia. 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 C'est très important. Quand Dieu va vous bénir, et alors donc je reviens à notre histoire. Jésus dit, les gens disent, Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Ils avaient un fardeau. Peut-être que aujourd'hui, ma soeur, ton fardeau, comme je dis, comme tu vois les enfants de la rue, tu souffres. Quand tu vois les filles en train de se prostituer, tu souffres. Certaines personnes, lorsqu'ils voient les hommes de Dieu qui ont des problèmes financiers, ça te fait souffrir. C'est ce qu'on appelle un fardeau. Le fardeau n'est pas une vision. Le fardeau précède la vision. Amen. Moi, vous connaissez mon fardeau là. C'est de voir les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne connaissent pas les promesses de Dieu. Ça me fait mal. On m'a blessé. Alléluia. Et c'est ce fardeau là qui m'a conduit à faire les évaluations de la Côte d'Ivoire. Malgré la crise, je suis capable, à cause du fardeau, n'est-ce pas, d'aller dans les régions non atteintes pour parler de Jésus. Mais quand tu n'as pas le fardeau, quand ça chauffe, tu fuis, mon frère. C'est ce que la Bible appelle un mercenaire. Amen. Alors, il travaille pour quelque chose de bien précis. Si le loup arrive, il s'en va, il arrête. Amen. Et parce que j'ai agi dans le sens de mon fardeau, faire en sorte que les peuples n'ont pas à entendre la parole de Dieu, Dieu a commencé à m'envoyer les fonds. Vous suivez, non? Dieu a commencé à financer. Et c'est comme ça que vous avez vu que l'œuvre a commencé à grandir. Parce que je ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait. Mais je dois faire ce que Dieu a mis dans mon cœur, mon fardeau. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, par le ministère, vous savez, on est ici, hein? Mais jusqu'au nord, là-bas, il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui ont été sauvés. Bon, je considère que ce n'est pas encore un fleuve. Moi, c'est encore une rivière. Amen. Pour moi, là, c'est encore une rivière. Bientôt, ça va devenir fleuve. Alléluia. Non, parce que moi, mes fleuves sont trop costauds, les gars. Oui, moi, j'ai des fleuves plus gros que le Nil. Ouais. C'est-à-dire, il faut que les gens soient trop bénis sur la terre. Alléluia. Ah oui. Et quand vous avez une vision, quelque chose qui vient répondre à votre fardeau, vous n'êtes jamais satisfait. Vous voulez encore aller de l'avant. Amen. Alors, les disciples ont eu ce fardeau. Ils disent, Seigneur, les gens n'ont pas à manger. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous, ils pouvaient être combien? Il y a des hommes parmi eux qui étaient polygames. Il y avait 5000 hommes. 5000 hommes, ça veut dire à partir de 20 ans. Il y avait 5000 hommes. Il y en a qui avaient deux femmes. Il y en a peut-être qui étaient célibataires. Mais si on veut mettre les femmes là-dedans, peut-être c'est près de 10 000 au moins, n'est-ce pas? Maintenant, les enfants. Donc c'est possible même qu'il y a eu dans ce moment-là plus de 20 000 personnes. Alléluia. Car s'il y a 10 000 hommes et femmes et que chacun, ils ont deux enfants en moyenne, vous comprenez, non? Il y a plus de 20 000 personnes. Et les disciples voient une si grande foule qui n'a pas de quoi manger. Ils disent, Seigneur, nous ne pouvons renvoyer. Jésus leur dit, vous-même nourrissez-les. Il y a des gens qui sont là de partout et qui arrivent pour poser des problèmes. Qui disent, oh, les orphelins, les femmes prostituées qui doivent changer, les gens qui sont dans les prisons, qui ont besoin d'être visités par la parole, ont envie de changer. Et qu'est-ce que vous savez, nous leur disons chaque fois, on met moi le Seigneur, on dit, Seigneur, permets à ce que, il faut les renvoyer, permets à ce que les Américains viennent, ils n'ont qu'à nous faire un prêt, permets à ce que les Français, ils n'ont qu'à nous donner pour que les gens sortent de la pauvreté, les gars aussi, ils n'ont qu'à envoyer l'argent immense seulement. Dieu dit, nourris-les toi-même. Nourris-les toi-même. Alléluia. Lorsque Jésus a dit ça à des disciples, leur cœur devait normalement se couper. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils sont partis dans la foule et ils ont pu retirer 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons par rapport à une foule de près de 20 000 personnes? Même nous-mêmes qui sommes dans cette salle-là, 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas nous suffire. Même à une première rangée ici. On va faire comment? Alléluia. Il y a des gens à eux seuls. Les 5 pains, 2 poissons, ils vont finir ça. Et puis après, ils auront faim. Mais même si c'était 5 pains et 2 poissons, les disciples n'ont pas dit, Seigneur, nous n'avons rien. Suivez très bien. Je vous ai dit, on ne dit jamais à Dieu, je n'ai rien. Devant une foule de 20 000 personnes, 5 pains, 2 poissons, on a envie de dire, on n'a rien. Je sais que tu as un grand fardeau, tu as une grande vision. Et le peu d'argent que tu gagnes tous les jours, tu as envie de dire la phrase, je n'ai rien. Je sais que Dieu t'a mis à cœur de dire, oh, l'église, Vazonneur doit construire une église. J'ai tellement envie d'aider. Mais quand tu regardes ce que tu as dans ta poche, tu as envie de dire, je n'ai rien. Moi, je dis, tu n'as pas rien. Tu as 1000 francs. Tu as 100 francs. Tu as 10 000 francs. Il y en a qui ont 10 millions même qui sont là et nous ici. Il y en a qui ont 30, 40, 50. Il y en a même qui ont beaucoup plus. Amen. Alléluia. Et c'est avec ça que tu vas faire ton miracle. Quand les apôtres ont amené ce qu'ils avaient, les 5 pains, 2 poissons, le Seigneur a multiplié cela et tout le monde a été nourri. Et c'est cela que je vous ai parlé la dernière fois. C'est-à-dire, ce que vous allez mettre à part pour Dieu, si petit soit-il, sera multiplié par le Seigneur. Je ne sais comment. Il va vous permettre de financer votre propre destinée. Alléluia. La dîme dont je vous ai parlé, là, c'est pour financer votre vision. Parce que vous êtes aussi, vous aussi, des sacrificateurs. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire, comme c'est pour moi déjà, je vais commencer à manger. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et tu gardes jusqu'à ce que Dieu te dise comment il veut que tu la gères. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a 4 attitudes qui vous empêchent d'avoir le fleuve. 4 grosses attitudes. 4 états de cœur qui sont des sentiments et des pensées dans le cœur créés par les problèmes du monde. J'ai parlé de ce qu'on appelle le cœur de Balaam. Alléluia. Le cœur de Caïn, un cœur qu'on appelle le cœur de Simon, et puis un autre qu'on appelle le cœur de Corée. En fait, ce sont des gens d'attitude qui sont créés dans les hommes à cause des problèmes. Balaam était un homme de Dieu, mais il aimait l'argent. À cause de l'argent, il est sorti de sa vision. Amen. À cause de l'argent. À cause de l'amour de l'argent. Vous ne pourrez pas manifester le fleuve qui est dans votre vie si vous êtes profondément attaché, si vous aimez l'argent. C'est-à-dire, vous travaillez pour avoir de l'argent. Pour vous, la bénédiction égale l'argent. Je vous conseille de suivre, de prendre les CD, d'écouter l'enseignement sur sagesse et prospérité. Amen. Je parle longuement de cela. C'est vrai. Je dis aux gens, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de Dieu. Toujours, je fais parler avec mes camarades hommes de Dieu. Je dis, pasteur Sanogo, là, mais si on avait l'argent, tu serais parti évangéliser. Je dis, non. Si vous commencez à courir derrière l'argent, l'argent va vous détourner de Dieu. Courez derrière Dieu. Mais, alléluia. On dit que quand je dis ça, les gens me disent, mais non, ça c'est la théorie. Mais ce n'est pas toujours l'argent que Dieu vous donne. Dieu peut vous envoyer des gens qui vont réaliser ce que vous souhaitez. Ce n'est pas l'argent qu'il va vous donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Actuellement, ils sont en train de prier pour avoir un terrain. Peut-être que quelqu'un va venir s'élever, c'est pas l'argent qui va me donner le terrain. Et voilà, parce que voilà le terrain en même temps. Donc, j'ai pas eu l'argent. Mais j'ai eu le terrain. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, le cœur de Balaam recherche le bien financier, matériel. Le cœur de Simon, c'est quelqu'un qui cherche la gloire. Si vous voulez que Dieu arrose votre vie pour avoir un nom célèbre dans la ville, vous n'allez pas produire un fleuve. Peut-être un grand lac. Mais ça ne sera pas un fleuve pour Dieu. Amen. Si vous avez le cœur de Caïn, c'est un esprit de jalousie. Beaucoup de gens recherchent les biens humains par esprit de jalousie et de concurrence. Quand quelqu'un d'autre a ce qu'ils n'ont pas, ça leur fait mal. C'est une attitude du cœur qui vous empêche, qui empêche de manifester votre destinée. Amen. Et certains d'autres le font par esprit de révolte et de rébellion. C'est ce qu'on appelle le cœur de Corée. Alléluia. Alléluia. Par exemple, nous sommes en train de faire une église, quelqu'un vient, par exemple, va travailler avec moi, et puis il me dit après, non, soit peut-être parce qu'on l'a sanctionné, pour différentes choses. Il se rébelle contre l'autorité pour aller bâtir aussi, selon lui, ses fleuves. La rébellion va fermer le robinet. Amen. C'est pourquoi David a toujours refusé d'entrer en rébellion contre Saül. Parce qu'il savait que malgré le fait qu'il avait été oint, s'il se rébellait, s'il se mettait à insulter Saül, à le critiquer, à dire de mauvaises choses de lui, lui-même, il fermait son fleuve. Alléluia. Alléluia. Ça va, vous me suivez? Vous suivez? Si tu suis, claque les doigts, claque les doigts. Alors pour terminer notre enseignement d'aujourd'hui sur la porte, j'ai parlé donc de ces quatre fleuves-là. Comment les fleuves-là vont se manifester dans votre vie? Le premier fleuve qu'on appelle Pishon. Pishon veut dire en hébreu augmentation. Amen. Il veut dire simplement que Dieu, la première chose que Dieu va commencer à faire avec vous, c'est un fleuve. Mais un fleuve qui va aller dans une, qui va augmenter, c'est-à-dire qui va aller dans une croissance progressive. Alléluia. Alléluia. Ne vous attendez pas à ce que votre œuvre ne doit pas, ce que Dieu va faire bâtir avec vous ne doit pas stagner. C'est-à-dire que ça doit être une œuvre qui n'évolue pas. Si vous bâtissez une entreprise qui n'est pas en train de grandir, c'est pas bon, ce n'est pas un fleuve. L'œuvre doit grandir, mais augmentation parle de progressivement. Vous allez avoir une croissance, peut-être un peu lente, mais elle va pas à pas, pas à pas, pas à pas. C'est la caractéristique générale que je peux donner à ce fleuve-là qu'on appelle Pishon. Amen. Alléluia. Donc, soyez patient dans ce que Dieu va faire avec vous. Un peu comme je dis, dans une graine se trouve une plantation. Mais la plantation ne vient pas du jour au lendemain. Vous allez d'abord semer la graine, vous allez avoir un seul arbre. De l'arbre, vous allez avoir plusieurs autres fruits. De ces fruits-là, vous allez retirer plusieurs pépins. Vous allez planter et ils vous donneront encore d'autres, plusieurs arbres, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'augmentation. La première chose que Dieu va faire avec vous va aller lentement, mais en s'accroissant, au fur et à mesure. Ne soyez pas pressés. Laissez la bénédiction de Dieu croître en vous. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes en train de travailler pour votre, vous allez créer votre boîte va grandir progressivement, progressivement, progressivement. Ça, c'est votre premier fleuve. Amen. Ça va aller. Vous dites, vous avez 200 000 francs de chiffre d'affaires. Après, l'année qui vient, 1 million de chiffre d'affaires par an. Après, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous ne devez jamais stagner. Le premier fleuve doit toujours aller de manière croissante. Amen. Alléluia. Le deuxième fleuve qui s'appelle Guillon, il parle de ce qui jaillit. Quand vous allez commencer à manifester votre premier fleuve, la deuxième bénédiction, là, elle ne vient pas de manière progressive. Elle arrive brusquement, en gros, avec de grosses bénédictions. Alléluia. En fait, simplement pour vous dire, quand vous atteignez un certain summum, toutes les affaires même que vous allez entreprendre ne vont plus venir progressivement. Elles viennent en fracas. Amen. Votre premier fleuve va aller très lentement. Le deuxième, lui, va aller brutalement, subitement. Il arrive avec de grosses bénédictions, un coup. Amen. Alléluia. Le troisième qui s'appelle Idékel parle de rapidité. Les choses peuvent venir de manière éclatante, brusque. Mais la rapidité, ça veut dire que ce que Dieu va vous donner dans le troisième fleuve, les choses, les bénédictions vont s'accélérer. Les choses vont aller beaucoup plus vite, très vite. Et le troisième qui parle de Frat parle de fertilité. C'est le fleuve de la fin. Amen. Où votre vie devient un véritable Éden. Où les gens viennent auprès de vous et peuvent s'abreuver. Sont heureux, sont bénis. Amen. Vous savez, le but n'est pas de parler en détail de la forme des fleuves. Mais de comprendre simplement que il doit naître de votre vie quatre sources. Pour vous donner d'être stable. Et d'atteindre pleinement votre destinée. En vous, Dieu a déposé quatre possibilités. Quatre potentiels. Alléluia. Alléluia. En fait, un potentiel qui peut se diviser au moins en quatre grandes potentialités. La Bible dit que le fleuve qu'on appelait Pishon tournait autour d'un pays qui s'appelle Avila. Le pays d'Avila, ça veut dire le pays de l'or et des trésors. La Bible dit que là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Amen. Ça veut dire que votre premier fleuve, premièrement, il vient pour réaliser dans votre vie les choses qui vous tiennent le plus à cœur. Ce qui est pour vous un trésor. La Bible dit que le fleuve de Pishon, tournait autour de la région de Avila. Alléluia. Le fleuve de Guillon tournait autour d'une région qui s'appelle Cush. Qui parle de brûler par le feu. Le troisième, Idékel, qui parle de rapide, tournant autour d'un endroit qu'on appelle la Syrie, qui veut dire s'en aller. Le Frat, on n'a pas dit autour de quoi il tournait. Je vais commencer par le tout dernier Hidekel, avant de terminer mon exhortation de ce jour, en parlant de Guillaume. Le fleuve de Hidekel, il dit, le fleuve, il tourne autour d'une région de la Syrie qui veut dire s'en aller, qui parle de liberté. Alléluia. Lorsque vous manifestez cela dans votre vie, vous connaissez à un moment donné de la liberté. Vous sentez libre. Vous sentez que vous avez atteint la paix et la tranquillité. Vous pouvez vous en aller. Vous savez, non, c'est comme si quand tu finis de manifester ce feu, tu dis, j'ai bâti, maintenant je peux partir. Tu sais que tu as bâti. Alléluia. C'est le dernier fleuve à qui on a donné une vision exactement. Tu sais où tu peux partir. Alléluia. Le deuxième fleuve, qui est le fleuve de Couche, te préserve de ce qu'on appelle, te préserve de la chute. Notez bien, donc je reprends. Le premier fleuve te donne d'aller à réaliser le trésor de ta vie. Le deuxième fleuve te préserve de ce qui est du feu, du tourment. C'est un peu comme si vous avez une seule jambe, sur moi, si vous avez une seule jambe, vous allez tomber. Mais une jambe vous permet de marcher. Deux jambes vous permettent de ne pas tomber et d'être stable. Le deuxième fleuve vous donne de la stabilité. Amen. Pour ne pas aller dans le pays brûlé, pour ne pas tomber autrement. Le troisième fleuve vous affranchit, vous permet de partir, d'être libéré pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis, mon but n'est pas trop d'insister là-dessus. Mais surtout, vous dis ceci. Vous devez manifester le potentiel que Dieu a déposé en vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne laisse pas les mauvaises attitudes de ton cœur. Ne laisse pas les mauvaises pensées du cœur freiner ce que Dieu a déposé en toi. N'empêche pas, parce que tu as une vision limitée, Dieu d'agir dans ta vie. N'empêche pas l'Éternel. Dieu parlant à Abraham a dit ceci, tu ne vas plus t'appeler Abraham. Tu vas t'appeler Abraham, père d'une multitude. Ce monsieur n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit, vois grand. Vois grand. Voyez grand. Même si aujourd'hui vous n'avez rien, sachez que avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une foule de plus de 20 000 personnes. C'est ce qu'il fera avec vous. Amen. Je ne dis pas ces choses simplement pour vous flatter, mais c'est la vérité. Avant, on vous l'a proclamé dans votre vie. Maintenant, l'Éternel vous montre la façon dont vous devez procéder. Alléluia. Prenez une première dîme, amenez-la à la maison du Seigneur. La deuxième, mettez-la à l'écart. Attendez 3 ans, invoquez l'Éternel pour savoir comment il va financer ce que vous avez dans votre cœur. Pendant ce temps, prenez le temps de rechercher votre fardeau pour bâtir véritablement votre premier fleuve, qui est le fleuve de Pishon, qui va vous permettre de faire ce que votre cœur a toujours désiré, ce que vous avez toujours aimé. Alléluia. Une fois, les gens posaient la question à cet homme-là, j'aime bien le prendre comme exemple, Bill Gates, comme c'est l'homme le plus riche au monde. On lui a demandé, il parlait à des étudiants en France. Il est arrivé, il leur a dit, je vous demande de faire une chose. N'allez pas travailler dans des choses que vous n'aimez pas. Faites ce que vous aimez. Amen. C'est ça la nature particulière du fleuve de Pishon. C'est un fleuve qui coule, mais par rapport à ton trésor, à ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. C'est ce fleuve-là qui vient de ton fardeau. Mais il n'est pas suffisant. Amen. Il n'est pas suffisant. Il te faut Guillaume. Ça va parce que tu couvres vers ta destinée que tu ne peux pas tomber. Il te faut Guillaume pour te donner la stabilité, pour ne pas tomber en chemin. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as bâti cela, tu as ton troisième, la troisième source qui va se lever, qui te permet d'être libre et de pouvoir partir en paix et finir ta mission. Je dis que quand je vois la vie de David, David a manifesté 3 grands fleuves. Mais la Bible dit, en tout cas ce que j'ai pu observer, mais la Bible dit, tu peux aller jusqu'à manifester 4. Même si tu peux plus encore, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, afin que ta vie soit fertile et arrosée. On va se tenir debout.
C'était le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de la mission évangélique Vase d'honneur. Merci de votre attention et un autre message.